Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Nicolas Sendé, mais aussi Bertille Bourdon et Margot Leridon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean-Frédéric. Suite de notre série consacrée aux États-Unis, à 48 jours de l'élection présidentielle, après avoir fait un état des lieux de la campagne, après avoir parlé des tensions raciales et avant d'évoquer demain la situation économique du pays, place ce matin à la politique étrangère de Donald Trump. America first, et si Trump avait vu juste, la question qu'on se pose ce matin.
Il y a quelques instants, j'ai organisé un appel très spécial avec deux amis, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, et le prince héritier Mohammed Ben Zayed des Émirats Arabes Unis. Cet appel a permis de finaliser un accord de paix historique. Tout le monde disait que ce serait impossible. Après 49 ans, Israël et les Émirats Arabes Unis ont normalisé leurs relations diplomatiques. Tant de progrès ont été accomplis vers la paix au Moyen-Orient. Il y a quelques instants, j'ai organisé un appel téléphonique historique entre Benjamin Netanyahou d'Israël et le roi du Bahreïn, Ahmed Al-Khalifa. Il y a eu deux accords de paix avec Israël durant les 72 dernières années. Il s'agit là du second accord de paix signé en l'espace d'un mois, et j'espère qu'il y en aura d'autres qui suivront. Je peux vous dire que d'autres pays partagent cet enthousiasme et qu'ils sont prêts à nous rejoindre.
Après l'annonce d'un accord de normalisation entre les Émirats Arabes Unis et Israël, c'est au tour du Bahreïn de suivre la voie, malgré le consensus existant dans le monde arabe depuis le début des années 2000 par lequel aucune normalisation n'est possible avec l'État hébreu sans un règlement préalable de la question palestinienne. Oui, mais voilà. Ça, c'était avant le président Trump, qui aime à renverser la table, à se montrer imprévisible, qui fait fi des règles diplomatiques traditionnelles et dont la passion du deal est dévorante. Guerre commerciale avec Pékin, retrait du Moyen-Orient, mais pression maximale sur l'Iran, défiance à l'égard des alliés traditionnels et notamment de l'Europe, rejet presque viscéral du multilatéralisme, le cavalier seul de Donald Trump n'a pas de frontières, mais reste à en mesurer les effets. Les observateurs n'ont pas toujours compris la cohérence de la politique extérieure du 45e président des États-Unis, voire l'ont même parfois trouvé chaotique. Et pourtant, son action n'est peut-être pas aussi saugrenue que ce qu'on a voulu dire parfois, à tel point d'ailleurs qu'on peut se demander si ses choix ne s'inscrivent finalement pas dans une tendance plus lourde qui pourrait se poursuivre après son départ de la Maison-Blanche. Au-delà de la forme bien éloignée des canons de la diplomatie internationale, quel bilan faire de la politique extérieure américaine depuis 4 ans? Qu'est-ce que le Trumpisme en matière d'affaires étrangères et qu'en restera-t-il? Son départ de la Maison-Blanche s'accompagnera-t-il de la fin du repli, du grand retour du multilatéralisme? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Alexandra de Hoopscheffer. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche, directrice du bureau de Paris du think tank German Marshall Fund. Alors on va commencer peut-être avec ce que j'évoquais en tout début d'introduction, c'est-à-dire cet accord entre les Émirats Arabes Unis et Israël, et maintenant le Bahreïn qui suit la voie. Il y a eu d'ailleurs cette nuit, pendant la nuit, enfin c'était le jour aux États-Unis, mais une grande cérémonie à la Maison Blanche pour justement officialiser cette normalisation. C'est une victoire diplomatique importante que Trump n'a pas manqué de mettre en scène. On l'a d'ailleurs vu cette nuit. C'est un enjeu électoral important où finalement, ça pèse pas tellement dans la campagne. Et quand on regarde un peu l'histoire des campagnes, en réalité, la question de la politique extérieure, c'est pas forcément ce qui fait perdre ou ce qui fait gagner les candidats.
Alors moi, je dirais que c'est très important. C'est très important. La politique étrangère de Trump est principalement tournée vers la scène intérieure, vers son électorat. Il dit à chaque fois qu'il prend une décision de politique étrangère, il demande à ses plus proches conseillers qu'est-ce que ça va faire politiquement? Est-ce que je vais y gagner politiquement? Là, clairement, il va y gagner politiquement. C'est une double percée diplomatique. Ce qui est extrêmement intéressant aussi, on l'a vu sous d'autres administrations américaines, à l'approche de l'élection présidentielle, il y a vraiment une hyperactivité diplomatique. Il faut absolument remporter des succès, notamment dans l'anticipation d'un changement éventuel d'administration américaine. Et on voit d'ailleurs aussi que les alliés des États-Unis, et là, entre autres, Israël, essayent aussi d'empêcher le plus de succès diplomatique de son côté, dans l'anticipation éventuellement d'un changement d'administration américaine. Donc on va avoir une course là à des succès diplomatiques, on le voit aussi sur l'Afghanistan, on le voit sur d'autres sujets. Et oui, d'un point de vue image encore une fois, et on sait combien l'image est importante pour Trump, ça comptera politiquement, bien sûr.
On va évidemment évoquer un certain nombre des dossiers dont vous venez de parler, notamment l'Afghanistan, on aura tout à l'heure Karim Pakzad. Mais vous dites il faut lire la diplomatie trumpienne à l'aune de ce que cela produit sur l'opinion américaine. Mais est-ce que ça suffit? Je veux dire, si on ne fait que de la diplomatie en fonction de son opinion, on peut se retrouver à l'extérieur avec des choses totalement incohérentes. Est-ce que, bah oui, la diplomatie trumpienne est une diplomatie incohérente et elle ne peut se lire que par le truchement de ce que l'opinion américaine en pense, ou est-ce qu'il y a quand même derrière une logique, une vision du monde ?
Alors, vous avez parlé de cohérence. C'est extrêmement intéressant parce que pour moi, il y a vraiment une cohérence avec, justement, l'électorat américain. Trump a réussi, et d'ailleurs, quand vous parlez aux conseillers aujourd'hui dans l'équipe de transition de Biden, ils partagent cet avis-là. Trump a réussi finalement à réaligner la rhétorique avec la politique et finalement à se rapprocher du peuple américain, à trouver une nouvelle manière de parler en fait justement des questions internationales et du rôle des États-Unis dans le monde auprès des Américains et à faire en sorte que les enjeux internationaux soient mieux compris sur la scène intérieure. Ça c'est très important. Sur la Chine, c'est à la fois un sujet de politique internationale et intérieure. Sur l'engagement militaire à l'étranger, c'est un sujet de relations internationales, mais aussi de politique intérieure, puisque ça impacte également les Américains, et puis également les questions de budget, puisque ça coûte très cher d'être engagé. On l'a vu combien les guerres post-11 septembre 2001 ont coûté à l'Amérique. Le seul sujet qui, pour moi, pose un problème d'incohérence, c'est sans doute celui du climat. D'autant plus quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Californie. Et là, il est un peu à contre-courant par rapport à ce que pensent les Américains, à la manière dont les Américains ont évolué sur les sujets environnementaux. Et là, il est notamment en décalage avec la plus jeune génération américaine qui croit véritablement que le climat est un des sujets prioritaires en matière de politique étrangère et intérieure. L'incohérence que vous soulignez se voit davantage à l'international, puisque finalement, comme vous l'avez dit, une politique étrangère, un soft power qui est principalement centré sur l'électorat américain et notamment l'électorat restreint de Trump, fait que les alliés européens ou les alliés asiatiques ou d'autres, nous sommes les dommages collatéraux des décisions qui sont prises par Trump. Et là, ça pose problème, puisqu'on a très bien vu sur pratiquement tous les sujets, toutes les décisions qu'a prises Trump en matière de politique étrangère, que ce soit sur l'Iran, sur la Syrie, sur l'Afghanistan, sur le retrait des traités de contrôle d'armement, il ne consulte pas. Il ne consulte pas ses alliés et donc il privilégie l'unilatéralisme pratiquement partout. Ou alors le bilatéralisme en préférant, disons, la diplomatie de choc, la diplomatie frontale, notamment, on va certainement parler avec la Corée du Nord.
On va parler de la Corée du Nord, on va parler aussi des relations transatlantiques, mais vous parliez d'alignement avec l'opinion américaine. Quid de l'alignement avec les positions du Parti républicain? Est-ce qu'en réalité Trump a une manière tout à fait spécifique, distincte de ce qu'est la position, j'allais dire, classique du Parti républicain ces dernières années, ou en réalité, là aussi, on a un alignement presque parfait?
Alors, le Parti républicain a beaucoup changé pendant ces presque 4 années de Trump. 4 années, c'est à la fois court et suffisamment long pour laisser des traces, aussi bien sur la scène internationale que sur la scène politique intérieure américaine. Là, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que sur un certain nombre de sujets de politique étrangère, que ce soit sur les questions commerciales, la plus grande fermeté envers la Chine, le désengagement des terrains militaires post-11 septembre 2001, il y a véritablement un alignement du Parti républicain et parfois même le Parti républicain se veut être encore plus faucon envers la Russie, envers la Chine, envers les alliés européens, notamment sur les questions technologiques, la pression sur la G5 et Huawei, etc. Donc il y a un alignement et parfois même une volonté du Parti républicain de pousser Trump encore plus loin, et notamment en ce qui concerne, on va le voir peut-être dans les accords justement que vous avez mentionnés au début d'émission entre Israël, Bahreïn et Émirats Arabes Unis, dans quelle mesure est-ce que ces accords ont aussi été obtenus avec la promesse de vendre des F-35 et des armements, etc. Et là, le concret est un peu plus vigilant.
Alignement avec le Parti républicain et parfois même alignement aussi avec le Parti démocrate, parce que vous disiez dans une récente tribune dans l'Opinion, je vous cite, il existe aujourd'hui un consensus bipartisan pour mettre fin aux guerres de l'après 11 septembre, inciter les alliés à davantage à partager le fardeau sécuritaire, protéger les emplois américains et diversifier les chaînes de production et gagner la guerre technologique contre la Chine. Donc en réalité, Trump ou pas Trump, Biden ou pas Biden, il y a plein de choses qui vont rester dans la continuité.
Il faut exactement regarder ce qu'on appelle les deep trends, hein, les tendances profondes, les tendances structurelles qui vont continuer à façonner les priorités de politique étrangère américaine. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de prendre la séquence Obama, Trump et puis après Trump, de voir que Trump a accéléré beaucoup, beaucoup d'aspects de la politique étrangère d'Obama, hein, sur plein de sujets, que ce soit le pivot vers l'Asie, que ce soit le désengagement des opérations militaires, et puis d'une certaine manière aussi un langage un peu plus ferme vis-à-vis des alliés, notamment européens. Sur l'Afghanistan, par exemple, Obama nous consultait très rarement, hein, quand il prenait des décisions aussi. Donc c'est une continuité. La question aussi du partage du fardeau, c'est pas nouveau. Trump l'a bien sûr amplifié, comme aucun autre président américain ne l'aura amplifié. Mais si vous avez un Biden, il va exercer exactement la même pression en disant, voilà, vous comprenez, nous, il faut qu'on se concentre sur ce qu'Obama appelait le nation building at home, la reconstruction de l'Amérique chez nous et non pas les reconstructions de nations ailleurs. Et donc, il faut que vous, Européens, vous preniez encore plus une part de ce fardeau de gestion de crise, et notamment sur le flanc qui, nous, Français, nous occupe beaucoup en ce moment, méditerranéen.
Alors, le deep trend le plus important du côté des États-Unis, c'est incontestablement la question de la Chine et de la menace qu'elle représente, représenterait, en tout cas du point de vue des Américains. Dans ce dossier en particulier, Trump s'est montré particulièrement dur. Il a lancé une guerre commerciale sans précédent avec Pékin, à grands coups de taxes douanières sur les produits chinois, on s'en souvient. Et d'ailleurs, la virulence de la charge de Trump a été telle que du côté de la diplomatie chinoise, on a été totalement estomaqué. À un moment, je me souviens, peut-être vous aviez invité à l'époque, mais on parlait beaucoup de la théorie du fou, qui était cette posture nixonienne qui visait à montrer à son adversaire qu'on est prêt à tout, totalement imprévisible, prêt à tout pour faire plier son adversaire. À l'époque, on avait parlé de ça. Il y a eu vraiment une virulence très forte. Jusqu'à l'arrivée de Trump, il y avait beaucoup plus de conciliance, de bienveillance à l'égard de Pékin. Oui, on savait qu'elle ne respectait pas les règles commerciales, mais on n'était pas prêt à lancer cette guerre. Lui l'a lancée. Qu'en sera-t-il après son départ? Est-ce qu'un Biden, par exemple, dans l'hypothèse où il serait élu, poursuivrait sur cette voie extrêmement dur, ou est-ce qu'il faut s'attendre à ce que justement la pression se détende un peu?
Avec une potentielle administration Biden, pour moi la grande différence, ce sera pas la direction qu'a donnée Trump, qui sera en très grande partie suivie, et d'ailleurs que beaucoup de ses conseillers aujourd'hui autour de lui estiment comme pertinente, hein, la volonté de fermer ce chapitre un peu de complaisance dans lequel nous aussi Européens on a été par rapport à la Chine, un peu de naïveté par rapport à cette idée finalement que en intégrant la Chine au sein de l'OMC, au sein de la mondialisation, que politiquement elle se rapprocherait de nos systèmes politiques démocratiques, hein, c'était vraiment ça, c'était vraiment après la guerre froide l'idée de la paix démocratique et de cette universalisation, de cette grande convergence sur le plan politique. Et là, ce qui est intéressant avec Trump, c'est que finalement, il fait le bilan. Il fait le bilan de l'héritage de la guerre froide. Et il souhaite finalement solder cet héritage de la guerre froide en disant voilà, on a été principalement occupé à projeter la puissance notamment militaire américaine sur différents théâtres d'opération. Et pendant ce temps, on a laissé la Chine prendre de l'ampleur et émerger comme une des plus grandes puissances, les plus compétiteurs par rapport aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui se passerait si un Biden venait au pouvoir? Pour moi, la grande différence, ce serait qu'il travaillerait davantage avec les alliés européens, mais aussi avec les alliés asiatiques. Et là, ce qui est intéressant, ça me rappelle un peu la fin du deuxième mandat de Bush Junior, qui effectivement avait été assez unilatéraliste dans son premier mandat, mais qui dans son deuxième mandat s'était rapproché notamment des Européens sur un certains aspects de sa politique étrangère. On voit que Trump aujourd'hui se rend compte qu'il a besoin de ses alliés, et notamment de ses alliés asiatiques, pour peser vis-à-vis de la Chine. On a vu Pompeo voyager partout en Asie, privilégier le format de coopération Quad avec le Japon, avec l'Inde, avec également la Corée du Sud. Et tout ça dans l'objectif, finalement, de créer, un peu comme ce qui se passe au Golfe, hein, une espèce de camp, pas anti-Chine, mais en tout cas pour contrebalancer les actions de la Chine dans sa région et plus globalement au sein aussi des institutions multilatérales.
On a du mal à le voir du côté de l'Europe. Les alliés européens, il ne semble pas que ces derniers mois, nous ayons assisté à quelque chose de l'ordre d'une nouvelle bienveillance de Trump. Il reste très dur vis-à-vis de l'Europe. Ça, il n'a pas bougé là-dessus. Pourtant, nous sommes ses alliés. Pourtant, nous pourrions effectivement l'aider dans ce match, dans cette compétition contre la Chine.
Le problème, c'est que Trump perçoit avant tout l'Union européenne comme une rivale sur le plan économique et commercial. Ça, c'est vraiment la raison numéro un pour laquelle il nous considère comme une concurrente plutôt qu'un partenaire.
Donc, ça, il n'aime pas le projet européen. Il avait dit, oui, d'ailleurs, l'Union européenne a été créée pour maltraiter les États-Unis.
Absolument, c'est dire ce absolument. Qu'il en pense. Et il a même été jusqu'à dire que l'Union européenne était une ennemie des États-Unis, voire pire que la Chine.
C'est vraiment une nouveauté par rapport.
Oui.
Ça, c'est une vraie rupture.
C'est une vraie rupture, mais la continuité, là, à nouveau, dans la politique américaine vis-à-vis de l'Union européenne, c'est que sans cesse, on a des administrations américaines qui sont quand même très ambivalentes par rapport aux partenaires européens. D'un côté, elles souhaiteraient, et sans cesse, on l'entend, hein, qu'on soit plus unis, qu'on ait une voix plus forte sur certains sujets de politique étrangère, que ce soit sur la Chine, que ce soit sur les questions de souveraineté technologique, etc. Et de l'autre, sans cesse, on cherche à diviser les Européens. Et là, Mike Pompeo, par exemple, a fait une tournée fin août, non pas en Europe occidentale, comme on dit, mais dans les pays de l'Est et de l'Europe centrale. Pourquoi ? Pour aussi essayer de créer des divisions, de jouer, d'instrumentaliser ces divisions qui existent, hein, qui ne sont pas créées par Washington, qui existent au sein de l'Union européenne, pour essayer là aussi de créer une espèce de politique de chantage et de pression entre les Européens. C'est extrêmement problématique. C'est pas la première fois. Bush, Obama avaient fait exactement la même chose. Biden le fera très certainement. Hein. On le sent notamment sur les questions de souveraineté technologique et de filtrage des investissements chinois. Hein. Il y aura une voix extrêmement forte avec une administration Biden. Mais cette stratégie de diviser l'Union européenne s'est accentuée avec Trump et est véritablement problématique.
Biden jouera aussi cette carte-là. Il va essayer de nous diviser.
C'est une manière pour les États-Unis de pousser les Européens à essayer de s'unir, en fait, hein, sur un certain nombre d'enjeux qu'ils estiment être extrêmement stratégiques.
On en est conscient, nous, ici en Europe, parce que ce qu'on lit beaucoup, c'est vivement que Biden arrive, que enfin nous puissions retrouver cette relation si particulière, si privilégiée avec nos partenaires américains de toujours. C'est ça, la musique qu'on entend. Hein.
Oui, mais je pense
que il n'y a pas de méfiance. Hein.
Non, mais je pense que c'est totalement décorrélé de la réalité, tout comme quand Obama était élu en 2008, on se souvient tous, on a dit enfin on a un président qui parle comme un Européen, on a un président américain qui aime l'Europe. On a découvert très vite que c'était absolument pas le cas. Moi je me souviens, j'arrivais au Quai d'Orsay, au centre d'analyse et de prévision sur le dossier États-Unis. Une de mes premières notes que je devais écrire, c'était sur l'Europe post-américaine. Est-ce qu'Obama va ouvrir une ère où les États-Unis seront beaucoup moins engagés en Europe et davantage tournés vers l'Asie-Pacifique ? On voit que ce thème-là continue. Il y aura toujours ce problème du partage du fardeau, ça va s'accentuer, d'autant plus que l'Amérique va devoir faire des choix, notamment dans le monde post-Covid, hein, se reconcentrer sur l'Amérique, sur se reconstruire. Et ça, sous un Biden, ce serait exactement pareil.
États-Unis. Pardon d'insister, mais est-ce que il faut quand même à un moment que les Européens prennent conscience de tout ça, parce que dans les faits, en réalité, les Européens n'ont pour l'instant pas vraiment tiré les leçons de ces quatre dernières années, sur le fait qu'il ne faut plus compter sur les États-Unis comme on le faisait auparavant sur les questions sécuritaires. En réalité, on n'a absolument pas avancé. On n'a pas l'ombre de quelque chose qui pourrait ressembler à une armée européenne. On n'a déjà même pas une diplomatie européenne dont on voit qu'elle se fracasse très régulièrement sur tous les dossiers un peu compliqués. La grande menace en réalité pour les Européens, c'est que l'arrivée de Biden ne replonge les Européens dans ces vieux travers qu'on se dit ça y est, enfin on est sauvés, on va à nouveau pouvoir se reposer sur les États-Unis. Il faut vraiment qu'on en ait conscience. Vous avez l'impression que du côté de la diplomatie, notamment française, dont vous avez parfois quelques échos, on a conscience de ça ?
Pour être très, très honnête, je pense que la France est un des rares pays à s'en rendre compte et à se projeter sur une durée longue dans cette relation avec les États-Unis qui ne sera pas celle que l'on a eue avant Obama. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui n'est moins partagée à Berlin, beaucoup moins partagée au Royaume-Uni, qui avec le Brexit, ça va être très compliqué d'être entre l'Europe et les États-Unis, donc de trouver un équilibre. Mais la France, je pense, en est assez consciente. Et je dirais qu'il y a trois manières d'envisager notre relation avec les États-Unis. La première, très rapidement, je dirais que c'est de continuer à travailler avec Washington, là où nos intérêts convergent et où il y a un intérêt à travailler ensemble. Et pour moi, le sujet numéro un, c'est la Chine. On devrait coopérer beaucoup plus ensemble, avoir des travaux de réflexion communs. Ça commence un petit peu du côté de Washington. On a vu Mike Pompeo accepter cette offre de l'Union européenne d'une task force de dialogue commun avec l'UE. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un gros sujet. On va devoir, comme vous l'avez dit, aussi apprendre à travailler de plus en plus sans les États-Unis. Quand ils se retirent d'un traité, c'est pas nouveau, sous Trump, on a eu ça aussi, sous Bush ou Obama. Et on va devoir travailler de plus en plus avec d'autres puissances que les États-Unis, que ce soit la Chine ou des partenaires plus compliqués comme la Russie, puisqu'on ne peut pas finalement exclure ces pays-là des discussions, par exemple, sur la question climatique ou alors sur la Libye, la Syrie, où on voit que la Chine, la Turquie, la Russie sont finalement des acteurs stratégiques tout aussi importants, voire peut-être plus que les États-Unis aujourd'hui.
Y a deux sujets sur lesquels je voudrais vraiment qu'on échange un peu, Alexandra Dobschaeffer. On va les prendre l'un après l'autre. D'abord la question de la Russie, puis ensuite celle de l'Iran qui est aussi incontournable. D'abord sur la Russie, quand Trump arrive à la Maison-Blanche, on attend des évolutions très importantes s'agissant des relations américano-russes. Et pour cause, on a beaucoup parlé des liens entre Trump et la Russie, notamment on a le souvenir que la maison Trump, l'entreprise Trump a eu des liens avec des banques russes. On sait aussi, évidemment, on en a énormément parlé, combien Moscou a essayé de jouer sur l'élection américaine pour que ça soit Trump qui soit élu. On a tellement parlé de cette question de l'ingérence durant le mandat de Trump. Mais au bout du compte, est-ce que ce rapprochement tant attendu a vraiment eu lieu ? Est-ce que Poutine a eu ce qu'il attendait de Donald Trump ?
Poutine n'a pas eu ce qu'il a voulu de Donald Trump et Donald Trump n'a pas eu ce qu'il espérait avoir de Poutine. Tous les présidents américains arrivent. Le premier jour, ce qu'ils disent, c'est qu'on souhaite un reset, améliorer notre relation avec la Russie.
C'était la formule d'Hillary Clinton.
Bien sûr, voilà. Donc, Bush Junior l'a fait, Obama l'a fait, Trump l'a fait. Ce qu'on voit que cette relation est très complexe, un peu comme la Chine aussi, puisque c'est à la fois, entre guillemets, un partenaire sur certains sujets, ou un partenaire qui est un peu imposé. Là, je parle par exemple des théâtres d'opérations comme la Libye, la Syrie ou même la Centrafrique, où la Russie devient un acteur extrêmement important. Et c'est à la fois un rival sur le plan stratégique, géopolitique. Donc, comment trouver en fait une politique qui fasse l'équilibre entre les deux. On voit que c'est extrêmement compliqué. On voit à quel point l'Union européenne, c'est compliqué pour elle, on l'a vu dans le cadre du sommet avec la Chine, de trouver une manière de parler avec la Chine, à la fois lui dire attention à ce que vous faites sur les questions de droits de l'homme, et puis en même temps, on aimerait bien continuer à avoir une relation économique forte avec Pékin. Donc c'est ces relations qui sont vraiment duales, partenaires, rivales, qui sont les plus compliquées à gérer. Et donc on a finalement ce que j'appellerais une compartimentalisation de notre relation avec ces pays. On doit coopérer avec ces pays sur certains sujets stratégiques, environnementaux, et puis en même temps les confronter sur d'autres. Et c'est ça qui est très compliqué dans cette relation.
Donc un peu de naïveté quand on a pensé qu'en arrivant, on allait assister à un réchauffement des relations avec la Russie.
Il y a toujours une part de naïveté. Il y a toujours une part de naïveté. Et l'objectif finalement de Trump, c'est de mettre fin à ce qu'il appelle justement cette naïveté américaine ou cette hypocrisie américaine par rapport à beaucoup de sujets de politique étrangère depuis finalement la fin de la guerre froide. Hein. America first, c'est vraiment ça. C'est une politique de clarification des intérêts américains. C'est de dire l'Amérique avance à visage découvert. Et c'est aussi America first, c'est essayer de négocier ou de renégocier des deals, des accords avec les alliés, mais aussi avec les rivaux, tant que l'Amérique est toujours première, tant qu'elle est toujours la première puissance. Mmh. Or, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que si pour le moment les États-Unis sont toujours la plus grande puissance militaire, sur les autres pans de ce qui fait une grande puissance économique, technologique, c'est là où elle se trouve le plus concurrencée, voire déjà dépassée par la Chine. D'où l'effet de panique, de négocier ou renégocier avec ce type de pays.
Sur l'Iran, Alexandra Dobscheffer, le marqueur absolument incontournable quand même de la politique étrangère de Trump, c'est évidemment cette propension à mettre la pression sur Téhéran. On se souvient comment Donald Trump, en arrivant à la Maison Blanche, avait déchiré le fameux accord sur le nucléaire qui avait été trouvé par son prédécesseur à l'été 2015. Depuis, on a vu les sanctions pleuvoir sur Téhéran. L'objectif de l'administration Trump, c'était de faire tomber le régime de l'intérieur, si je puis dire. De ce point de vue-là, c'est un échec. C'est tellement un échec que cela. Est-ce que d'ailleurs c'était réellement l'objectif de Trump que de faire péricliter ce régime iranien? Et comment comprendre cette obsession iranienne de Trump? Alors, évidemment, bien sûr, on sait bien que l'Iran fait beaucoup d'ingérence dans la région. Vous parliez tout à l'heure de la Syrie, vous parliez on peut parler du Yémen. Enfin, il y a plein de théâtres. Mais enfin, ils ne sont pas les seuls. Les Turcs font cela aussi, les Russes aussi. Pourquoi cette obsession iranienne?
Cette obsession iranienne est véritablement liée à un épisode tout particulièrement, la prise d'otage des
79.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, le général Mattis, hein, qui était l'ancien secrétaire à la défense de Trump au début de son mandat, répétait souvent, il y a trois priorités pour la politique étrangère américaine, l'Iran. Donc autour de Trump, il y a véritablement un réseau de conseillers pour qui l'Iran est le problème principal, la menace principale en matière de sécurité nationale et internationale. Mmh. Et donc là, l'objectif, on le voit notamment avec les accords Israël, Émirats Unis et Bahreïn, c'est de renforcer ce camp anti-iranien en espérant, et ça c'est vraiment dans la ligne de mire de Trump, on l'a vu, que l'Arabie Saoudite se positionne aussi de manière plus claire et suivent la direction donnée par le Bahreïn et les Émirats.
Ce qui n'est pas exclu à terme.
Ce qui n'est absolument pas exclu à terme.
Il faudra du temps, mais c'est
d'autant plus s'il y a des F-35 dans l'air, hein, si je puis dire.
Mais en revanche, là aussi, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. C'est-à-dire que, par exemple, une intervention armée, en tout cas, elle n'a pas eu lieu. Il y a eu des moments où on a pensé, pendant le mandat de Trump, notamment avec les tensions dans le Détroit d'Hormuz, on s'est dit un conflit ouvert est possible. Finalement, il n'a pas eu lieu. Donc ça fait partie des lignes rouges. On n'intervient pas.
Oui, l'obsession de Trump, c'est véritablement de ne pas réouvrir un front militaire. On le voit aussi dans la Méditerranée. Les tensions entre la Turquie et la Grèce et le langage qui vient de la Maison Blanche et du Département d'État, donc qu'incarne Mike Pompeo, à dire il faut avoir une solution diplomatique. Donc il y a aucune envie d'ouvrir un autre front militaire. Et d'ailleurs, Trump aime rappeler que sous son administration, il n'a réouvert aucun front militaire. Il n'a cessé d'essayer de réduire justement la voilure et de réduire les engagements militaires américains et non pas d'en réouvrir un, puisqu'Obama s'était engagé en Libye, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose auquel il souhaite tenir, en tout cas, si possible, jusqu'à l'élection de novembre.
Et dans l'hypothèse où Biden l'emporterait, qui n'est pas du tout exclu quand on regarde les sondages, même si on sait qu'il faut se méfier des sondages, mais s'agissant de l'Iran, jusqu'où est-ce qu'il serait en capacité de faire redescendre la pression avec Téhéran?
Son objectif, ce serait de pouvoir réintégrer l'accord, hein, de le JCPOA, hein, l'accord signé en 2015.
Il l'a formulé comme 2015. Ça, réintégration de l'accord.
Il a reformulé comme ça, mais en disant il va falloir le retravailler et notamment prendre en compte les inquiétudes quant au comportement de l'Iran dans la région. Voilà. Donc on aura
exactement la position de la diplomatie française.
Exactement. Donc là, on aura une vraie convergence, en tout cas d'après ce que je comprends, franco-américaine sur ce dossier.
Ce qui sera très compliqué parce que de l'autre côté, à Téhéran, le camp des plus durs a évidemment été renforcé par la fin de cet accord sur le nucléaire de 2015. On est avec vous, Alexandra Dehoub-Scheffer, dans cette semaine consacrée aux États-Unis. Aujourd'hui, on parle de politique étrangère. Presque 20 ans après les attentats du 11 septembre, les États-Unis ont réaffirmé leur volonté de se désengager de la guerre en Afghanistan, la plus longue de l'histoire des États-Unis, lancée par le président Bush. En effet, en février dernier, il y a un accord qui a été signé qui ouvrait la voie à un retrait définitif de l'armée américaine. On va en parler tout de suite. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que les États-Unis ont obtenu des engagements aussi bien de la République islamique d'Afghanistan que des talibans pour mener des pourparlers de paix. L'accord américano-taliban, et c'est très important, contient la promesse des talibans que les terroristes ne pourront plus jamais opérer à partir du sol afghan.
Voilà, ça c'était donc un accord en février dernier, alors que viennent de s'ouvrir samedi dernier, samedi 12 septembre au Qatar, des négociations directes entre talibans et autorités afghanes. Les États-Unis pourront-ils enfin tourner la page de ce conflit? Trump va-t-il pouvoir se vanter d'avoir encore arraché un formidable deal avec les différentes parties afghanes? Bonjour Karim Pakzad.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'être avec nous ce matin, Karim Pakzad. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, un spécialiste de l'Afghanistan, de l'Iran, de l'Irak, du Pakistan. On va parler de tout cela ensemble. D'abord, cette nouvelle phase là qui va commencer à Doha a ceci de particulier que pour la première fois, on va avoir autour de la table les groupes d'insurgés, bien sûr, mais surtout les autorités afghanes qui, jusqu'ici, étaient mises de côté au motif qu'elles n'étaient pas légitimes aux yeux des insurgés. Le tout en présence du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Alors, avant de vous demander si un accord est possible, on pourrait d'ailleurs en discuter pendant des jours, la première question que je voudrais vous poser, c'est quel a été le rôle de l'administration américaine, de Mike Pompeo, de Donald Trump, dans cette capacité à mettre tout le monde autour de la table? Parce que il faut bien le reconnaître, jusqu'ici, on n'y arrivait pas. Là, c'est possible. Est-ce que c'est grâce à Donald Trump?
Oui, quelque part, grâce à Trump, le président américain en savait quand même avant d'être élu, il a été contre cette guerre. Il voulait faire sortir les États-Unis d'une guerre si coûteuse, si longue, meurtrière. Et quand il a été élu, il voulait effectivement le faire. Mais au bout de quelques mois, il a changé d'attitude. On se souvient qu'au début, la plupart de ses conseillers à la Maison Blanche, mais au-delà, même au Pentagone, à la ministère de la Défense, étaient composés des anciens généraux, notamment les généraux qui avaient déjà servi en Afghanistan. Sous la pression de ces généraux, Donald Trump a changé d'attitude.
Il a changé d'attitude, mais il a même renforcé les moyens militaires en réalité en Afghanistan.
Absolument, ouais. Il a envoyé davantage de soldats et notamment il a défini une nouvelle stratégie, une énième nouvelle stratégie en Afghanistan. Cette stratégie était basée sur une menace contre le Pakistan. Mmh. On se souvient qu'au début de 2018, il a menacé le Pakistan de rompre tout, de retirer tous ces matériels donnés au Pakistan dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, comme des hélicoptères, etc. Ce qu'il a fait, il a qualifié le Pakistan, l'attitude du Pakistan, comme vraiment de duperie. Hein. Or, cette période a fait naître un certain espoir chez les dirigeants afghans. Des dirigeants afghans qui pensaient qu'en fait, les bases arrières des talibans se trouvent au Pakistan. Il faut vraiment viser l'origine, viser les bases même des talibans au Pakistan pour soulager un peu l'effort de guerre des soldats afghans.
Mais Karim Pakzad, je vous coupe. Je comprends que donc la pression qui a été mise par Trump sur le Pakistan a été décisive. Mais est-ce que cette pression, elle s'est aussi reportée sur les insurgés précisément ? Est-ce que c'est parce que le Pakistan a mis la pression sur les insurgés qu'ils sont aujourd'hui autour de la table et surtout qu'ils ont accepté la présence des autorités de Kaboul ? Et c'est donc un effet indirect de la pression de Donald Trump ?
Non, non, effectivement, les menaces américaines contre le Pakistan n'ont donné aucun résultat. Mm-hmm. La guerre a continué de plus belle et de jour en jour, les talibans marquaient de poing. C'est la raison pour laquelle, à la fin de 2018, début de 2019, il y a eu un nouveau président, excusez-moi, un nouveau premier ministre au Pakistan, M. Imran Khan. Trump l'a invité à la Maison Blanche et là, Trump a changé d'attitude. Il a demandé aux Pakistanais, quasiment supplié les Pakistanais de l'aider à trouver une solution en Afghanistan. Et en contrepartie, à nouveau, les deux pays sont devenus amis. Et c'est à ce moment-là que, sous la pression des Pakistanais, les talibans ont commencé à avoir des contacts avec les Américains. Mais à ce moment-là, les protégés de Trump, le gouvernement de Kaboul, traînaient le pied. Ils ne voulaient pas de ces négociations parce qu'ils savaient qu'au bout du chemin, ils seront lâchés par le gouvernement américain. Et à ce moment-là, mais incroyable, Trump a menacé le gouvernement afghan pour dire que si vous voulez que nous on fasse la guerre en Afghanistan, je pourrais gagner cette guerre. Écoutez-moi bien, je pourrais gagner cette guerre en une semaine, je ne veux pas tuer 10 millions d'Afghans. C'est-à-dire qu'il a menacé même de l'usage d'une bombe nucléaire, éventuellement, pour gagner la guerre. Et donc, le Pakistan a fait pression sur les talibans et les Américains. Qui fournit la grosse partie de budget afghan et la totalité de l'aide militaire à l'armée afghane à autour de 4 milliards de dollars par an. Or, a fait pression sur les gouvernements afghans pour qu'ils puissent négocier avec les talibans. Voilà, au bout de 2 ans de négociations, de retournement de situation, finalement, il y a 3 jours, les deux parties ont commencé à discuter à Doha.
Karim Pakzad, vous restez avec nous. Alexandra Dubcheffer, on peut rien dire évidemment sur l'issue de ces négociations, mais quand même, finalement Trump, alors soit, quand on regarde la méthode, Karim Pakzad nous dit, en gros, il les a menacés du feu nucléaire, sauf que aujourd'hui, tout le monde est à la table des négociations, ce qui n'était pas arrivé encore, Alexandra Dubcheffer. Il y a ça à noter, et une autre chose à noter, c'est que il a été en capacité d'analyser en réalité qu'une stratégie ne fonctionnait pas, celle de la pression sur le Pakistan, et il a changé de méthode pour enfin arriver à ses fins.
On ne peut pas lui enlever une certaine prise de risque et une certaine inventivité en matière de diplomatie. D'ailleurs, l'équipe de campagne de Biden est en train d'observer ça de très près et d'en tirer les leçons. Peut-être qu'il n'y a pas tout à jeter de ce qu'a fait Trump. Est-ce qu'au contraire, il n'aura pas ouvert un certain champ des possibles en matière de diplomatie américaine ? C'est extrêmement intéressant aussi bien en Afghanistan que sur la Corée du Nord. Mais là, sur l'Afghanistan, c'est à la fois, oui, un succès de la diplomatie américaine. Alors, ils ont réussi à convaincre les talibans à venir à la table des négociations, aussi parce qu'il a mis comme condition que l'armée américaine se retirerait d'ici mai 2021. Voilà, c'était une des conditions aussi pour que les talibans viennent à la table des négociations. Mais pour moi, c'est quand même aussi un échec flagrant de la stratégie américaine, de la stratégie de l'OTAN, puisque finalement, on légitime les talibans comme interlocuteur pour définir l'avenir politique de l'Afghanistan, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, ces discussions.
Peut-être n'y a-t-il pas d'autres solutions, Alexandra Dubcheffer. Ça fait 19 ans que les États-Unis sont engagés dans ce conflit. 1000 milliards de dollars, 2400 soldats américains perdus. Avant Trump, on n'avait pas trouvé de solution.
Vous avez raison. Il n'y a pas d'autres solutions, tout comme il n'y en aura peut-être pas en Syrie, où on sera obligé aussi de discuter avec Bachar al-Assad. Effectivement, les talibans qui avaient été exclus dans le processus de Bonn en 2001 sont enfin réintégrés au processus politique. Le problème pour moi, c'est qu'il y a un fort déséquilibre là, dans le rapport des forces. Les talibans sont sont en position de force face à des autorités afghanes qui, elles, sont très affaiblies et extrêmement divisées. Et là se pose le problème de justement du résultat de ces négociations. Mmh. Et on voit encore une fois que c'est le calendrier politique de Washington qui prime avant tout, parce qu'il faut accélérer et il faut montrer qu'on a réussi à signer un accord avant l'élection de novembre.
Merci beaucoup en tout cas Karim Pakzad d'avoir été avec nous. Nul doute Karim Pakzad qu'on aura l'occasion de reparler ensemble du dossier afghan. Là c'est vrai qu'on s'est concentré sur la diplomatie américaine, mais je pense que bientôt on aura l'occasion de le faire. Un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous Karim Pakzad. De l'Afghanistan à la Corée du Nord, il n'y a qu'un pas, on va en parler tout de suite, après avoir menacé de détruire totalement la Corée du Nord. Là aussi on voit qu'on n'y va pas par quatre chemins, et après avoir insulté copieusement son leader, il avait traité, on s'en souvient, de Rocketman, l'homme roquette dans un tweet. Eh bien, Donald Trump avait fini par rencontrer Kim Jong-un sans aucune précondition, une rencontre historique, puisque aucun président américain s'y était risqué avant lui.
C'est un honneur. Je ne m'y attendais pas trop. Nous étions au Japon pour le G20 et je me suis dit, je suis dans le coin, je vais appeler le président Kim. On a donc pu se rencontrer et c'est un immense honneur que d'avoir pu traverser cette ligne. Nous avons bien progressé. Nous nous sommes fait plein d'amis et cette amitié a été une amitié particulièrement belle.
Voilà, deux grands amis sur la DMZ, la ligne de démarcation entre les deux Corées. Mais derrière la rencontre, derrière les images, où en est-on de la dénucléarisation de la péninsule coréenne qui était l'objectif affiché de Trump? Pourquoi cette méthode Trump, justement, a peut-être échoué en Corée du Nord? Antoine Bondaz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS, et enseignant à Sciences Po Paris. Après les rencontres de Singapour, d'Hanoï, après cette rencontre sur la DMZ dont on entendait là une captation sonore, aucun accord n'a été signé entre Washington et Pyongyang. Est-ce que derrière l'absence d'accord, justement, on a une quelconque avancée dans ce dossier nord-coréen qui pourrait nous permettre de ne pas dire qu'on est là devant un échec total de Donald Trump?
Alors, je vais être extrêmement clair. Aujourd'hui, il n'y a aucune avancée sur la question de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le programme nucléaire, mais aussi le programme balistique de la Corée du Nord se poursuivent. La Corée du Nord continue d'enrichir de la matière fissile, continue d'assembler des armes et continue même de tester des missiles balistiques, même si la plupart des essais depuis fin 2017 sont des essais à courte portée et qu'il n'y a eu qu'un seul essai d'un missile stratégique, puisqu'il s'agit d'un missile Mersol, donc potentiellement tiré depuis un sous-marin qui a été testé à la fin de l'année 2019. Donc ce qui est clair, c'est que malgré les sommets de Singapour, les sommets de Hanoï, on se rappelle de ce fameux menu où Donald Trump et Kim Jong-un ont mangé entrecôtes marinées et autres, n'a débouché en réalité sur aucun accord concret de dénucléarisation. Il n'y a eu qu'une seule déclaration qui appelait à la dénucléarisation complète de la péninsule, et une déclaration qui va beaucoup moins loin que l'ensemble des déclarations qui avaient été auparavant publiées, que ce soit à la fin des années 90 ou dans les années 2000, et que ce soit des déclarations bilatérales, États-Unis-Corée du Nord ou multilatérales.
Mais Antoine Bondaz, je vais me faire l'avocat de Donald Trump. Finalement, c'est pas si mal. Alors soit il n'y a pas d'accord, mais il y a eu au moins cette rencontre. On a peut-être ouvert des canaux d'échanges qui vont perdurer. Par ailleurs, voilà, il consolide le statu quo qui était en réalité la règle depuis très longtemps maintenant. C'est pas si mal, Antoine Bondaz.
Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a peut-être plusieurs points positifs. Le premier point positif, c'est que, de fait, il n'y a pas eu d'essai nucléaire ou d'essai balistique à longue portée depuis la fin de l'année 2017. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ces essais. Est-ce que ce sont les pressions internationales? Est-ce que ce sont les négociations? Ou est-ce que c'est tout simplement une stratégie de la Corée du Nord? Ça, l'avenir nous le dira. Le deuxième point, c'est qu'il faut reconnaître que l'initiative prise par Trump et cette prise de risque, comme le disait tout à l'heure Alexandra de Hoopscheffer, était intéressante en tant que telle et en tant que moyen de négociation. Pour faire très rapide, vous avez deux types de négociations. Vous avez soit le bottom-up, alors vous avez les négociateurs qui négocient pendant des années et puis in fine, les dirigeants interviennent et signent un accord, ou une approche plutôt top-down où les dirigeants vont donner les grandes lignes des négociations à venir. Et vu la nature du système politique en Corée du Nord, vu la sensibilité du dossier nucléaire, cette approche top-down au niveau des dirigeants politiques avait un sens véritable et c'est d'ailleurs celle qui a été adoptée par la Corée du Sud. Et Et Séoul a notamment poussé Washington à accepter ces négociations au plus haut niveau entre Trump et Kim Jong-un pour essayer de convaincre le dirigeant nord-coréen d'avancer sur la voie de la dénucléarisation. Mais le problème qu'on a, il est toujours le même, c'est quelles sont les concessions que sont prêts à faire les Nord-Coréens et quelles sont les concessions, puisqu'il y en aura aussi, que sont prêts à faire les Américains et derrière eux la communauté internationale pour avancer sur cette question.
Et oui, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que le nucléaire, c'est évidemment une condition de la survie du régime nord-coréen, donc c'est très difficile de faire des concessions sur ce point. Mais au-delà de la Corée du Nord, Antoine Mondaz, sur les États-Unis, vous nous dites Trump, au fond, méthode plutôt pas mal. En revanche, il y a quelque chose qui n'a pas été du tout satisfaisant. C'est la préparation, précisément, de ces rencontres-là. Vous me disiez justement à l'époque, juste avant la première rencontre, qu'en réalité, du côté américain, on n'a absolument pas préparé les choses.
Alors, il y a eu extrêmement peu de temps pour négocier, y compris puisque les Nord-Coréens, pendant très longtemps, ont bloqué les négociations, notamment en 2018. Mais si on prend par exemple la préparation du sommet de Hanoï, les négociations ont repris de façon informelle en Suède en janvier 2019. Il a été annoncé dans la foulée que un sommet aurait lieu. On a appris plus tard que ce sera à Hanoï. Au final, il y a eu 5 semaines. Pour négocier un accord. Il faut être extrêmement clair, en 5 semaines, il est impossible de négocier un accord technique de dénucléarisation. On a vu ce qui s'est passé avec l'Iran, où là, on ne parle même pas de dénucléarisation. Et pourtant, la négociation a duré des années. Là, on parle simplement de déclaration. Et pourtant, en quelques semaines, on ne peut pas, évidemment, aboutir à un résultat concret, même si il faut quand même aussi le souligner. Dans l'administration Trump, il y a parmi les négociateurs des gens qui connaissent très bien le sujet, notamment au Conseil national de sécurité ou plus largement dans les services, et que Stephen Biegun, qui est désormais le numéro 2 du département d'État, est quelqu'un de brillant, qui a une conception à la fois politique et à la fois très officielle et administrative des négociations, qui est du côté américain, pardon, un négociateur de très bonne qualité.
5 semaines, c'est encore plus insuffisant quand on ne sait pas exactement ce qu'on a en face. C'est-à-dire qu'il y a toujours évidemment ce mystère autour des capacités réelles de la Corée du Nord. Il se dit que peut-être le pays aurait miniaturisé, pardon, ses ogives nucléaires, mais on n'en est pas trop sûr. On ne sait pas quelles sont exactement leurs capacités. Donc 5 semaines, c'est beaucoup trop court quand on ne sait pas ce qu'il y a en face.
Effectivement, il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui sur l'ensemble des capacités, que ce soit les infrastructures liées au programme nucléaire ou balistique, que ce soit dans les capacités, c'est-à-dire le nombre d'armes dont dispose la Corée du Nord, le nombre de missiles, le nombre de lanceurs, etc. Alors, on a appris dans la presse, à travers notamment le dernier livre de Bob Woodward, que Donald Trump pourrait annoncer qu'il y aurait, par exemple, 5 sites d'enrichissement. Officiellement, aujourd'hui, il n'y a que Yongbyon, on sait qu'il y en a d'autres, mais ça, ce sont des vraies questions de fond, puisque, par exemple, ce qu'essayent d'obtenir les négociateurs américains, c'est la liste des infrastructures nord-coréennes liées à ce programme. Et là, encore une fois, évidemment, il n'y a pas de déclaration officielle côté nord-coréen. Donc l'opacité est un véritable problème. Mais juste en quelques secondes, pour revenir sur Trump et sur sa politique, on peut quand même dire qu'il a réussi sur le plan politique. Quel était l'objectif du président Trump? C'était de se différencier du président Obama. Il a obtenu de fait un gel des essais. Il a obtenu cette rencontre avec Kim Jong-un. Et donc il peut dire à sa base électorale que contrairement à Obama, contrairement à la séquence à laquelle il est arrivé au pouvoir où il y avait des tensions, désormais il y a moins de tensions et il y a un dialogue, même s'il n'aboutit sur rien, avec la Corée du Nord. Et donc sur un plan purement politique, on peut dire que Donald Trump a réussi. Du côté nord-coréen, c'est par contre une déception, puisque si en 2017-2018, il y avait beaucoup d'espoir porté sur Trump et l'idée que ce sommet, ces fameux sommets, serait très utile, les nord-coréens réalisent aujourd'hui qu'un des grands gagnants des sommets, de façon paradoxale, ce ne sont pas la communauté internationale ou la Corée du Nord, mais peut-être la personne de Donald Trump qui, encore une fois, en termes de gains politiques, a marqué des points.
Et puis, il ne faut pas oublier aussi le gain politique pour Kim Jong-un, pour qui c'était une ambition presque inespérée que de pouvoir rencontrer le grand chef Trump.
Alors, bien sûr, mais je pense que ça s'est fait en deux temps côté nord-coréen. On l'a vu en 2018-2019. Dans un premier temps, c'était une victoire diplomatique de la Corée du Nord qui, indirectement, était reconnue comme un grand pays. Il faut quand même le souligner, il n'y a pas beaucoup de dirigeants ces dernières années qui ont réussi à avoir 3 rencontres avec le président Trump. Mais dans un second temps, le principal problème qui s'est posé pour les autorités nord-coréennes, c'est que ces négociations à haut niveau n'ont débouché sur rien, que les sanctions économiques, que ce soit les sanctions internationales ou les sanctions unilatérales des États-Unis, de l'Union européenne, etc., se poursuivent. Et donc, il y a en interne, en Corée du Nord, une vraie réflexion qui est menée sur comment faire désormais pour avancer dans les négociations. Et là, clairement, ce qui est attendu, c'est l'élection présidentielle aux États-Unis. Et on a une annonce il y a quelques jours qui est extrêmement importante, c'est qu'il y aura un 8e congrès du Parti des travailleurs de Corée en janvier 2021, comme par hasard, quelques jours après l'investiture du prochain président. Et là, clairement, la Corée du Nord se donne l'ensemble des marges de manœuvre nécessaires pour adapter sa politique et reprendre les négociations, potentiellement en position de force.
Enfin, janvier, Antoine Mondaz, vous allez vite en besogne. On verra hein, si tout se passe bien, hein, si la lutte juridique post-électorale ne retarde pas tout cela. Alexandra de Hubschefer, c'est vrai que quand on regarde évidemment le bilan de tout ça, et même sur la Corée du Nord, la première intention, c'est de dire, bah, voilà, c'est un échec, en tout cas, quand on regarde la question de la dénucléarisation. Quand on regarde, par exemple, l'objectif en termes de politique intérieure, il en est autre. Donc, il faut toujours regarder les choses de différents points de vue.
Absolument, absolument. Et je pense qu'un des héritages, justement, de la politique étrangère américaine, et c'est vraiment illustré au travers du cas nord-coréen qu'Antoine Mondoise a très bien décrit, c'est vraiment de rompre avec une certaine inertie de la politique étrangère américaine, avec certaines formules, certaines doctrines toutes faites, qui souvent sont ressortis en espérant obtenir un résultat différent. Trump, lui, a eu recours à une approche, une méthode différente, en essayant finalement de faire avancer le dossier réellement et de créer un lien avec des leaders qui n'étaient pas faciles à, entre guillemets, apprivoiser, si je puis dire.
Et il laissera un legs, y compris à Biden. C'est-à-dire qu'au-delà des positions dont on a vu qu'en réalité il y aura beaucoup de points de continuité, même sur la méthode, peut-être inspirera-t-elle un peu son successeur, si c'est Biden.
Moi, j'y crois totalement. Mmh. Et je pense notamment que ce qui va rester, c'est la manière dont il a aussi utilisé son pouvoir en tant que président. Comment utiliser les pouvoirs présidentiels en matière de politique étrangère, comment s'engager directement avec un leader sur la scène internationale pour essayer de débloquer une situation. Donc cette prise de risque-là, à mon avis, restera un des héritages. Et un autre héritage qui, moi, me frappe tout particulièrement, c'est ce qui nous concerne, nous, Européens, c'est que ce mandat de Trump nous aura aussi appris à dire nos désaccords avec Washington, à développer une forme d'autonomie, non pas stratégique, mais diplomatique, politique, hein, sur un certain nombre de sujets. On l'a très bien vu sur l'Iran récemment, hein, le 11 août, avec le rejet du E3 de la France, de la Grande-Bretagne, et de l'Allemagne pour des sanctions contre l'Iran dans le cadre d'une résolution qui était avancée par les États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies et sur plein d'autres sujets. Je pense que sur le climat, bien sûr, que là, la prochaine administration américaine, que ce soit Biden ou un Trumpiste, aura affaire à un interlocuteur européen beaucoup plus actif et moins, je dirais, gêné à dire ses désaccords. Stone's throw from the precipice, pause. Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this suggest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Merci beaucoup à Antoine Mondaz qui est avec nous par téléphone. Un grand merci à vous, Alexandra de Hubschefer, de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés sur cette politique étrangère de Donald Trump. On poursuivra notre série consacrée aux États-Unis. Demain, on parlera d'économie. Mais pour l'heure, on retrouve Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors, suite de vos chroniques sur la secte QAnon dont on parle depuis le début de la semaine, les animateurs de ce réseau ont saisi toutes les potentialités politiques d'Internet.
Et oui, parce que là où les autres se contentaient de relayer des messages en tentant de cibler au mieux les publics visés, eux traitent leurs affidés à la fois comme des initiés et comme des enquêteurs. D'un côté, on leur enjoint de s'apprêter à profiter du spectacle, enjoy the show, ça va être fumant, ils seront aux premières loges. De l'autre, chacun d'entre eux doit se comporter en investigateur, repérer et dénoncer le complot des élites. Leurs messages sont pleins de gouverneurs pédophiles, de businessmen corrompus, de hauts fonctionnaires complotistes et de journalistes impliqués. Mais si l'un des principaux hashtags de QAnon est WWG1WGA pour Where We Go One, We Go All, là où nous allons à un, nous allons tous, tous ceux qui sont déclarés traîtres à la cause font l'objet de campagnes violentes sur les réseaux sociaux. Des rumeurs prêtent au fameux tweet de Trump des contenus cryptés qui seraient réservés aux membres de la secte QAnon. Dans les messages, le président est toujours désigné par le sigle POTUS pour President of the United States et la Maison Blanche par l'expression The Castle, le château. Lorsque Trump, au cours d'une conférence de presse, a annoncé le calme avant la tempête, c'était l'un des slogans préférés de QAnon, désigné d'ailleurs là aussi par des lettres CBTS, Calm Before the Storm, QAnon l'a interprété ainsi, les comploteurs anti-Trump au sein de l'élite sont sur le point d'être tous arrêtés. Et lorsque le président parle de menace imminente, quel que soit le sujet, c'est qu'il met en garde ses fidèles contre une menace de coup d'État menaçant sa présidence. Mais pire encore, lorsqu'en pleine épidémie, le président arbore une cravate jaune, c'est qu'il envoie un message, figurez-vous, le virus n'existe pas. Car c'est une invention des ennemis pour ruiner l'Amérique. Le jaune n'est-il pas la couleur du fanion qui, dans la marine, signale qu'il n'y a pas de cas de contamination à bord? Alors, dans l'ouvrage collectif qu'il a dirigé, Conspiracy Theories and the People Who Believe Them, le politologue Joseph Uchinski définit les théories du complot en ces termes. C'est une explication non vérifiée d'événements ou de circonstances passées, présentes ou futures qui cite comme principal facteur explicatif un petit groupe de personnes puissantes œuvrant secrètement dans leur propre intérêt et contre le bien général. Dans une étude récemment parue sur le site Project Syndicate, deux universitaires allemands, Helmut Anheuer et Andrea Römele, développent ainsi. Ce ne sont pas des théories au sens scientifique, bien sûr, plutôt des fabrications basées sur des prétentions à la vérité qui ne peuvent être ni vérifiées ni falsifiées. Aux non-croyants, elles peuvent sembler farfelues, tirées par les cheveux, absurdes, mais chez les dévots, elles engendrent un sentiment de passion, de connexion à un groupe fermé qui peut facilement évoluer en ferveur quasi religieuse. Et de leur côté, les auteurs de « A Lot of People Are Saying », qui est déjà cité, Nancy Rosenblum et Russell Muirhead, insistent sur le désir latent de défier les experts, les élites du savoir et toutes les institutions prétendant à une connaissance objective. Les adeptes de QAnon, comme tous les complotistes, entendent créer, je cite, « un fossé épistémique qui viendrait redoubler la polarisation politique partisane ».
Mais alors Brice, que devient la démocratie dans un monde où l'établissement des faits n'est plus partagé, où l'expertise et le sens commun sont également congédiés au nom d'un savoir supérieur?
Et ben, comme l'avait très bien montré Hannah Arendt dans ses travaux sur le totalitarisme, c'est lorsque l'histoire connaît des ruptures ou de brusques accélérations, lorsque le sens des événements échappe à l'homme ordinaire, que fleurissent les théories complotistes. Elle écrit: la fuite des masses devant la réalité est une condamnation du monde dans lequel elles sont contraintes de vivre et ne peuvent subsister. Parce que le hasard en est devenu la loi suprême et que les êtres humains ont besoin de transformer constamment les conditions chaotiques et accidentelles, en un schéma d'une relative cohérence. Et Joseph Uchinski, déjà cité, écrit que les personnes les plus réceptives aux théories complotistes sont des losers. Elles trouvent en effet un terrain favorable, ces théories, chez les personnes peu éduquées, celles qui croient pouvoir s'informer uniquement sur Internet. Mais une étude statistique publiée récemment par le Pew Research Center confirme que le public crédule ne se recrute pas seulement chez les blancs d'un bas niveau d'éducation, ni dans l'électorat ultra-conservateur. Non, les minorités ethniques sont également touchées. Leurs membres précarisés par l'épidémie et ses conséquences économiques, cherchent des explications à leur situation et ils les trouvent dans l'idée que des forces anonymes contrôlent leur vie. Alors, on serait tenté de trouver une consolation dans l'idée qu'un certain nombre d'adeptes de QAnon collaborent manifestement au réseau d'une manière purement ludique, sans adhérer à ses dogmes. Ils y croient sans y croire, comme on dit. Mais c'est plutôt qu'une telle attitude soit possible qui devrait nous inquiéter. Entre la vérité et l'affabulation, il n'y a pas de place pour les faits alternatifs qui seraient semi-véridiques et semi-inventés.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. La suite demain, dans les sphères complotistes et en particulier dans ce groupe QAnon. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.